Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Sans façon de faire croire que vous travaillez sans rien faire » de Charles-Henri Delgado est un petit livre humoristique consacré au code visible de la vie de bureau. Son principe n'est pas de proposer une méthode sérieuse pour se soustraire à ses responsabilités, mais de pousser jusqu'à l'absurdité des comportements que chacun reconnaît dans les organisations. Sous la forme annoncée de 100 idées, il joue avec les signes extérieurs de l'activité professionnelle, dossiers accumulés, airs préoccupés, réunions évoquées, jargon vague et disponibilité toujours reportée. Le titre place d'emblée le livre dans une veine de satire légère, pensée comme cadeau pour un collègue, notamment à l'occasion d'un départ, d'un échange de bureau ou d'un Secret Santa. L'intérêt du recueil tient à sa capacité à transformer de petites scènes routinières en caricatures. Il cible moins le travail lui-même que sa mise en scène sociale, la manière dont l'empressement, la fatigue et le flou peuvent devenir des preuves apparentes de sérieux. Sa finalité est donc avant tout comique et relationnelle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la fausse activité comme matière première de la satire de bureau. Le ressort central du livre est l'écart entre accomplir une tâche et donner l'impression de l'accomplir. Cette distinction est immédiatement compréhensible dans un environnement où une part du travail est difficile à mesurer de l'extérieur. Le recueil exploite donc les indices visibles auxquels les collègues associent spontanément l'activité à un écran rempli, des papiers sur un bureau, un agenda chargé ou un visage concentré. La plaisanterie ne dépend pas d'une fraude sophistique, mais de signaux ordinaires rendus excessifs. L'accumulation de dossiers, par exemple, ne prouve rien sur la progression d'un projet, mais elle peut évoquer un volume de travail. C'est précisément cette faiblesse du signe que l'humour met en lumière. En isolant ces codes, le livre suggère que les bureaux jugent parfois davantage ce qui est observable que ce qui est utile. Cette lecture reste satirique, les astuces sont conçues pour faire rire de mécanismes connus, non pour constituer un manuel professionnel. Le format de 100 propositions favorise une logique de sketch bref. Chaque idée peut fonctionner par reconnaissance immédiate, car elle s'appuie sur des habitudes collectives plutôt que sur une intrigue ou une démonstration longue. L'ouvrage fait ainsi de la performance apparente un objet de comédie. Deuxièmement, les objets et les écrans utilisés comme décor de productivité. L'univers matériel du bureau offre au livre une réserve naturelle de gags. Des dossiers imprimés, de multiples onglets ouverts ou des documents laissés en évidence peuvent servir de décor à l'image d'une personne absorbée par un travail complexe. Ces objets sont comiques parce qu'ils possèdent une ambiguïté, ils peuvent témoigner d'une activité réelle, mais aussi simplement rester là sans fonction immédiate. Le livre tire parti de cette ambiguïté pour montrer combien l'interprétation d'autrui repose sur des raccourcis visuels. Un écran encombré peut paraître intense alors qu'il n'indique ni priorité, ni résultat, ni qualité. De même, une pile de documents peut évoquer une surcharge tout en masquant l'absence de traitement concret. Le propos humoristique vise moins la technologie ou l'administration que la croyance spontanée selon laquelle le désordre contrôlé équivaut à l'importance. Cette dimension rend les blagues particulièrement adaptées au travail de bureau contemporain, où une grande partie des efforts se déroule derrière des interfaces peu lisibles pour les autres. Le recueil convertit ainsi le mobilier, les fichiers et les fenêtres numériques en accessoires de théâtre. Il rappelle indirectement que la clarté des livrables, des objectifs et des priorités constitue un meilleur repère professionnel que l'agitation visuelle. La critique reste légère, mais l'observation sociale est précise. Troisièmement, le langage vague et les réunions comme signe d'occupation. Une autre cible importante est le langage professionnel qui donne du poids à une activité sans en expliciter le contenu. Dire que l'on est sur un gros sujet entre deux réunions ou que l'on rappellera plus tard produit une impression de mouvement tout en évitant de fournir une information vérifiable. L'humour vient de la disproportion entre le ton grave de ces formules et leur faible valeur informative. Elles sont familières parce que la communication au travail exige souvent de signaler son avancement avant même qu'un résultat soit disponible. Le livre pousse cette réalité vers la caricature, l'occupation devient un discours autoréférentiel, confirmé par l'évocation d'appels, de rendez-vous et de projets indéterminés. Les réunions occupent une place particulièrement propice à ce jeu. Elles sont socialement reconnues comme du temps professionnel, même lorsqu'elles sont peu productives ou simplement invoquées. En faisant de cette reconnaissance un ressort comique, le recueil souligne la différence entre coordonner le travail et paraître coordonné. Il ne développe pas une théorie de la communication organisationnelle, mais ces situations reposent sur une intuition solide. Le flou peut protéger celui qui l'emploie, car il laisse aux autres le soin d'imaginer la complexité. La lecture permet donc de rire des expressions toutes faites et éventuellement de mieux repérer la nécessité de demandes concrètes dans les échanges réels. Quatrièmement, le burn-out fictif et le stress décoratif retourné en caricature, le livre mobilise l'image de la personne débordée, épuisée ou constamment pressée comme un masque social. Les expressions de burn-out fictif et de stress décoratif résument ce procédé. Il s'agit de simuler les manifestations extérieures de la surcharge plutôt que de décrire une souffrance réelle. La nuance est essentielle. L'ouvrage emprunte le vocabulaire de l'épuisement pour en faire un ressort satirique et non pour minimiser la réalité des risques psychosociaux. Le soupir dramatique, l'air grave ou la réponse précipitée deviennent drôles parce qu'ils sont reconnaissables et volontairement démesurés. Ce traitement révèle une tension du monde professionnel. Être très occupé peut être perçu comme une preuve de valeur, alors que la maîtrise du temps, la coopération ou l'efficacité discrète sont moins spectaculaires. En exagérant le prestige attaché à la surcharge, le recueil met en cause une culture où l'urgence affichée devient parfois une posture. Cette veine comique fonctionne surtout entre personnes qui connaissent les mêmes routines et peuvent identifier la caricature sans la prendre au premier degré. Elle a toutefois une limite de contexte dans un cadre où la fatigue est réelle ou où les relations sont tendues. La plaisanterie peut perdre sa légèreté. Le livre se comprend donc mieux comme un objet de connivence que comme un commentaire approfondi sur la santé au travail. En dernier lieu, un format de cadeau qui privilégie la connivence entre collègues, le positionnement du livre comme cadeau rigolo pour collègues explique autant son contenu que sa forme. Il ne semble pas destiné à une lecture continue exigeante, mais à une consultation rapide à des extraits partagés et à des réactions de reconnaissance. Le chiffre 100 promet une abondance de petites variations plutôt qu'une thèse structurée. Cette construction rend l'objet compatible avec les moments sociaux du bureau pot de départ, anniversaire, échange de cadeaux ou secret de Santa. Offrir un tel recueil revient souvent à désigner gentiment une habitude connue chez le destinataire ou dans l'équipe. Son efficacité dépend donc de la relation. Il est plus pertinent lorsqu'il existe déjà une confiance permettant de rire de la lenteur, du jargon ou de l'agitation collective. Les retours disponibles soulignent ce rôle de petit cadeau à prix accessible et de détente de l'atmosphère. Par rapport à un livre de management, il ne promet ni amélioration de la performance ni conseil de carrière. Par rapport à une simple carte humoristique, il offre davantage de matière et peut être feuilleté à plusieurs reprises. Son intérêt social réside dans cette position intermédiaire, un objet bref, peu solennel, mais assez fourni pour nourrir des plaisanteries partagées. La satire reste centrée sur des comportements plutôt que sur des individus identifiables, ce qui facilite une réception bienveillante dans le bon contexte. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord aux personnes qui connaissent les petits rituels du travail de bureau et souhaitent en rire avec des collègues, des amis ou un proche. Il convient particulièrement comme cadeau de départ, présent d'anniversaire modeste ou échange de Secret Santa, à condition que le destinataire apprécie l'autodérision et que la relation autorise la taquinerie. Son bénéfice pratique n'est pas de fournir des techniques à appliquer réellement, il consiste plutôt à offrir un vocabulaire comique pour désamorcer certaines routines, l'agenda surchargé, le jargon imprécis, les réunions permanentes, les piles de documents et l'air faussement accablé. Sur un plan plus intellectuel, il attire l'attention sur la différence entre la valeur produite et les signes socialement associés à la productivité. Cette observation est simple, mais elle donne à la satire sa pertinence durable. Dans la catégorie des petits livres humoristiques sur les collègues, son trait distinctif et son angle unique et cohérent n'ont pas embêté ses collègues ou recensé des blagues générales, mais caricaturé l'art de paraître absorbé par son travail. Le format annoncé de 100 idées soutient une lecture fragmentée et facilement partageable. Plus proche du recueil de situations que de l'essai, il se démarque aussi par un ton qui vise la reconnaissance collective plutôt que la moquerie frontale. Lu comme une plaisanterie sur les apparences professionnelles, il peut créer une complicité et rappeler, sans moraliser, que l'agitation visible ne constitue pas toujours une mesure fiable du travail accompli. Si vous souhaitez soutenir Charles-Henri Delgado, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !